السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده و Donc, en cette soirée du lundi 21 Rabi al-Awwal 1436 de l'Hégire, correspondant au 12 janvier 2015, si Allah Azzawajal le veut et nous aide, on va commencer, Inch'Allah Ta'ala, une série de questions-réponses, parce que je n'ai rien préparé car j'étais absent. Je viens d'arriver, ça fait 5 ou 10 minutes. Donc, pour ne pas laisser comme ça la soirée vide. Donc je voudrais répondre à certaines, ou plutôt à certaines questions, en espérant, Inch'Allah Ta'ala, que les questions portent sur, par exemple, la aqida ou des choses importantes dans la salat et dans le din, et que ce ne soit pas beaucoup de cas personnels et de cas familiaux, Inch'Allah Ta'ala, même si je sais que les cas personnels et les cas familiaux, c'est vraiment important. Mais c'est-à-dire que l'intérêt n'est pas général, mais c'est un intérêt pour la personne elle-même et sa famille. El Mohim, que Allah subhanahu wa ta'ala vous aide. Tfadl, inshallah ta'ala. Voilà, particulier. Barakallahu fik. Tfadl.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on s'efforce à faire le tri, cher, concernant la question qu'on a reçue. Donc ne soyez pas étonnés si des personnes qui ont m'a levé dans les premières et qui nous ont posé une question et qu'elle n'est pas lue de suite, il ne faut pas être étonné. Donc première question, cher, qu'Allah vous récompense, cher. Quel est le jugement sur le fait de tomber enceinte dans le but de donner ensuite l'enfant à une autre personne? Je m'explique. Il est courant de voir dans certains pays des personnes donner leurs enfants à certains membres de leur famille qui ne peuvent pas en avoir. Par exemple, la sœur donne son bébé à son frère car lui et sa femme ne peuvent avoir d'enfants. Quel est le jugement de cela en islam? L'enfant a-t-il un droit sur ses parents concernant le fait d'être donné, ou bien est-ce que la décision revient à ses parents, sachant que la plupart de ces personnes ne comprennent pas que l'enfant reste un étranger pour la femme qui l'élève et tout ce que cela engendre. Barakallahu fikoum ya cheikh. Tfadal cheikh.
Je ne connais, bismillah ar-rahman ar-rahim, salat salam ala ashraf mursalin. Je n'ai jamais lu quelque chose en ce sens chez les savants. C'est pour cela ça a besoin, inchallah ta'ala, d'être noté chez Fawzi pour que la réponse des savants, s'il y en a une, inchallah ta'ala, sera donnée prochainement. N'empêche que je peux donner juste un avis. Je dirais deux choses. La première, il faut dire que c'est un peu difficile et que ce n'est pas facile que quelqu'un donne un enfant à une autre personne, même si c'est son frère ou son cousin ou là. Il faut dire que, surtout du côté de la mère, que ce n'est pas difficile de faire une chose. La deuxième des choses, c'est que si on donne l'enfant, il faut aussi qu'on soit sûr que les gens auxquels on va donner cet enfant vont l'éduquer de la meilleure façon. Et de la meilleure façon, je veux dire par là le din. Maintenant, il est possible, je le donne à un couple qui est vraiment loin du din, même s'ils sont de la famille proche, mais loin du din. Et vraiment, ça va être une catastrophe. Une seconde. Je disais donc, c'est une grande responsabilité. Car nous, quand on a des enfants, ça veut dire que on doit l'éduquer, on doit les préserver de l'enfer, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara. Naam. Qu anfusakum wa ahlikum naran. Préservez-vous et votre famille. Il a dit du feu. Pour préserver donc ma famille du feu, mes enfants rentrent en priorité. Donc si je les donne à quelqu'un, il faudrait vraiment que je sois sûr qu'il va les éduquer comme C'est demandé dans la religion. Wallahu ta'ala alam. Ça viendra, inshallah ta'ala, la réponse. Tfadhal.
Question suivante, cher. J'ai une question par rapport au hadith sur le jour du vendredi, qui dit, selon le sens, que celui qui rate trois vendredis, qu'il craigne qu'Allah lui scelle le cœur. Est-ce que c'est trois vendredis d'affilée, ou alors il y a une autre explication étant donné que je suis en horaire décalé, je peux faire la prière du vendredi deux fois sur trois, il y a une fois par mois où c'est compliqué. Pouvez-vous me répondre par rapport à ce hadith barakallahu fikoum?
Le hadith a cité, dans un autre hadith, a dit trois fois consécutives. Le hadith a cité le mot consécutivement. Naam, s'il y a trois fois consécutives, yani, c'est vraiment grave pour la personne, sauf si bien sûr elle est dans la daroura, comme par exemple qu'elle est malade, ou bien qu'elle est en voyage, ou bien qu'il n'y a pas de mosquée, ou bien. Donc le hadith a cité, il a dit consécutivement. Tfadhal.
Question suivante, question d'un frère. Avec un frère, nous essayons pour la première fois de mémoriser un livre de science. Il s'agit du livre Les trois principes fondamentaux de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab ainsi que le commentaire de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Rahimahumullah. À noter que nous utilisons l'édition Anas. N'ayant pas l'arabe pour le moment, nous l'apprenons en français. Comme le Cheikh Tchalabi l'a recommandé dans une précédente question, nous souhaiterions savoir s'il nous recommande d'apprendre les biographies des deux chouïours qu'il y a en préface aussi. Tfadachir.
Ce n'est pas obligé d'apprendre toute la biographie. C'est bien d'avoir un aperçu sur la biographie. Pourquoi? Car ces personnes qui ont posé la question, sûrement qu'elles ne vont pas y écrire un livre. La biographie, on l'a. On a besoin d'elle comme préface. Quand on veut écrire un livre sur quelqu'un ou bien on veut expliquer son livre, il faut qu'on cite c'est qui cette personne, yani qu'on veut expliquer son livre. Ou alors, par exemple, faire un commentaire sur son livre. Ici, maintenant, si c'est pour moi personnel, ce n'est pas obligé que j'apprenne sa biographie, mais c'est bien d'avoir une idée, yani, c'est qui, c'est de quel siècle, yani, cette personne, combien qu'elle a vécu, yani, je lis aussi sa façon de demander la science, tout ça, c'est beaucoup plus une exhortation pour moi, une exhortation pour prendre cette personne comme modèle. C'est pour cela que le fait, yani, d'apprendre sa vie pour la raconter aux gens. Non, tfadhal.
Question suivante. Question d'une sœur. Cher qu'Allah vous accorde les plus hauts degrés du paradis ainsi qu'aux admins. Je suis reconverti et donc mon seul mahram est mon mari. Je voudrais savoir, s'il n'est pas disponible car il travaille, s'il m'est possible de voyager avec mon neveu, entre parenthèses le fils de ma sœur, qui n'est pas musulman et qui est né hors mariage. Sachant que ça serait pour aller dans le sud visiter une autre de mes sœurs, il a 17 ans, barakallahu fikoum. Tfadachir.
La question est un peu compliquée, mais je voudrais donner quelques détails. Le mahram, je voudrais dire deux choses par rapport à cette question, inshallah ta'ala. La première, le mahram pour la femme, ce n'est pas obligé qu'il soit un musulman. Car le mahram, qu'est-ce qu'il fait? Le mahram, ce n'est pas le tuteur. Le mahram ne peut pas marier. Le mahram, c'est on a besoin de lui pour ne pas être agressé, pour ne pas être yani, embêté. Et comme ça, il est avec nous. Le voyage, il nous préserve. Il nous préserve. Donc, que ce soit un musulman ou un kafir, c'est un homme. Les voyous, les je ne sais qui, quand ils le voient, donc ils ne m'approchent pas. Donc, c'est surtout pour préserver la femme. C'est pour cela que, yani, il se peut que ce soit un kafir qui défende, yani, sa cousine ou là, sa nièce, là, comment ça s'appelle, là, sa tante ou là, et un musulman faible, yani, qui a un dîn très faible, yani, qui n'a pas de jalousie. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le neveu. Le neveu, normalement, c'est un mahram. Car c'est quoi le critère pour savoir que telle personne est un mahram ou pas? Il faudrait que cette personne ne puisse pas se marier avec moi. Donc toute personne qui ne peut pas se marier avec une femme, on dit d'elle, de cette personne, c'est un mahram. Ça veut dire c'est haram pour elle. Mahram, haram. C'est haram pour elle de se marier avec lui, c'est haram pour lui de se marier avec elle. Comme le frère, l'oncle, l'oncle paternel, l'oncle maternel, le neveu. Reste maintenant la troisième des choses et la dernière. Ce neveu n'est pas conçu et yani halal. Donc, on peut dire que normalement, c'est un étranger. Normalement, c'est un étranger, il n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que lui-même, il n'a pas été conçu en halal. Reste maintenant, si on va prendre de la fatwa de certains savants, et entre autres de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, qui dit que s'ils lui ont donné leur nom et que personne d'autre yani, n'a dit c'est mon fils, seul son père biologique et sa mère ont dit celui-là c'est notre fils, d'après Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit il devient leur fils. Il a dit si ils voient comme ça le mariage chez eux et dans leur tête et dans leur société. C'est une fatwa spéciale de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Si on prend de cette fatwa, on va dire que yani, c'est son neveu. On va dire que c'est son neveu. Et si on va dire que c'est son neveu, on va dire que c'est son mahram. Sinon, la plupart des savants disent que c'est un étranger. La plupart des savants disent que c'est un étranger. C'est pour cela que, pour terminer, dans une question pareille, est-ce que c'est cette personne? Pas mon neveu. Normalement, c'est un savant qui répond. Ça s'appelle fatwa. Et ce n'est plus, yani, demander une question sur fiqh ou sur aqida ou sur. Mais c'est une fatwa personnelle. Le savant te répond, qui a posé la question, et ta voisine qui est devant toi, qui a le même cas, il peut lui répondre autrement. S'il y a un petit facteur qui change. C'est pour ça s'appelle fatwa. Donc je dis en général, sans donner de fatwa, pour la plupart des savants, ce neveu est un étranger. Pour Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est un neveu. Wallahu ta'ala alam. Tfadhal.
Naam, cher, donc question suivante. Question d'une sœur. Cher Hafizakum Allah, quel conseil donnez-vous à une personne qui dit que la hijra de France est préférable et non obligatoire en se basant sur la fatwa de Cheikh Ubayd al-Jabiri, qu'Allah le préserve? Et donc elle a mis la fatwa en arabe. Et Akhi Fawzi, si tu peux la poster, min fadlik. Tfadal, cher.
Donc laissez-moi d'abord lire cette fatwa, je ne l'ai jamais lue. Laissez-moi lire d'abord la fatwa. Il dit, il ahsan Allah ilaykoum, ma nasihatoukoum, yaman yaqul bainou la yajibu l'hijratoum fi nasa, ilman bi'anna iqamat d'din. Abbar, hunaka sa'b, jawab. Takallamtu fi mawatin kathirati an l'hijra, wa fassaltu fiha tafsilan, wa la la'alli dhakartu hadha, madiyati. المذاعة المكينة أقول هنا تطييبا لخاطر السائل أو لخاطر المسؤول عنه والسائل كذلك إن كنت تقيم شعائر الله من صلاة وصيام الحج وتحضر الجمعة والجمعة وتصلي تصل الرحم فالهجرة مندوبة في حقك. Est-ce que c'est terminé? Terminé. نعم. طيب. Donc, Cheikh Ubayd, حفظه الله تعالى, a répondu après s'il y a les conditions qu'il a citées ici. On va voir maintenant les conditions qu'il a citées, si ça existe chez vous. Il a dit, donc, là, qu'il n'a pas le in kunta, tuqim sha'air Allah. Si, dans le pays où tu es, par exemple, tu peux, yani, faire, tuqim, faire, yani, sans contrainte. Sha'air Allah, disons, yani les choses visibles dans la charia, il a dit comme la salat, comprenez que ça veut dire tezabil hajj, wa tahdhurul jumwa, tu assistes jumwa, c'est-à-dire des prières et quotidiennes, en parlant des hommes, wa tasil ar-rahim. C'est-à-dire tu fais le lien de parenté, le lien familial. Dans ce cas, la hijra, il a dit, pour ton cas, elle devient seulement, seulement, c'est-à-dire C'est-à-dire, elle n'est pas obligatoire. Cheikh Hafidahullah Ta'ala, on ne lui a pas dit dans la question quels sont les problèmes que rencontrent yani, les gens là-bas, surtout ceux qui veulent appliquer. On ne lui a pas parlé de yani, c'est interdit de mettre le niqab. Peut-être même le djilbab est interdit. C'est interdit de prier dans le travail. C'est interdit d'aller dans un lieu public, peut-être avec le qamis. Avec le qamis, c'est interdit de rentrer dans un tribunal ou je ne sais où. Naam. Et on ne lui a pas dit, naam, polygamie interdite. Agressées dans la rue. Des femmes agressées dans la rue. l'islam insulté. L'islam. Les prophètes, on se moque d'eux. Haram que tu vois toute la journée. Toute la journée, tu vois. Du haram, il y en a à longueur de journée. Et mille et une choses que Cheikh ne sait pas. Mille et une choses que Cheikh ne sait pas. Là, il faudrait donc dire tout ça à Cheikh, ensuite lui dire, est-ce que c'est permis de rester dans un pays où, du matin au soir, je ne vois que le haram? Naam, je ne vois que le haram, je n'entends que le haram, naam, et je me sens stressé, j'ai la contrainte partout, tous les yeux me regardent, quand je monte dans le bus, tout le monde me regarde, dans le métro, tout le monde me regarde, tout le monde me fixe des yeux, tout le monde, si c'est possible, veut me frapper, si c'est possible, et comme ça. Et ne peuvent savoir ce qu'est la ni'ma de la hijra que celui qui est dans un pays musulman. 15 jours ou la Omra, et vous allez voir quand vous allez revenir en France, qu'est-ce que vous allez sentir? Vous allez sentir que vous allez être jeté en prison. Non. Après être resté 15 jours dans un pays, ils sont vraiment que. Yani, mashallah, mashallah, ce qui peut arriver, les jours. À venir, que Allah Ta'ala vous pourra devenir, ça va devenir une. Maintenant, c'est en France qu'on a découvert Zama, ce qui s'est passé. Ensuite, maintenant, hier, où c'était en Allemagne. Dans 2 ou 3 jours en Belgique, dans 4 ou 5 jours, un peu partout. Et la vraie cause, vous avez dû la savoir, c'est quoi la vraie cause? C'est que maintenant tout le monde sait que l'islam se propage. L'islam se propage d'une façon très forte en Europe. Donc il faut faire des choses pour arrêter cette vague. Cette vague, yani, immense, un tsunami. Tsunami islam qui arrive maintenant en Europe. Donc, yani, ils essayent maintenant comment yani, l'arrêter si c'est possible. Et voilà, bien sûr, et légiférer. Les lois anti-islam à cause de ce qui se passe. C'est un peu, si vous vous souvenez, c'est un peu le 11 septembre. Le 11 septembre des États-Unis. 11 septembre, c'est vraiment magnifique. Maintenant, il y a à faire sortir des lois anti-islam. Et même coloniser l'Irak, coloniser des pays musulmans et dire que vous avez le terrorisme chez vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Tfadlal.
Naam, cher, pour le reste des questions, on va passer un message, Inch'Allah, parce que le frère Fawzi a du mal à récupérer les questions sur la aqida et le fiqh. Donc, toute personne ayant une question sur la aqida ou le fiqh, en général, on lui demande de se rendre dans le salon bis et de lever la main. On va baisser toutes les mains du salon bis et toute personne qui a une question sur la aqida ou le fiqh, donc question générale, pas les questions particulières. Qu'elle lève la main dans ce salon, ça sera plus facile pour le frère Fawzi de récupérer les questions. Barakallahu fikoum. Donc, question suivante, cher. Question d'une sœur. Qu'Allah fasse que vous et les admins soyez parmi ceux à qui il accorde le refuge. Amin. Dans mes salats de plus de 2 rak'at, à la fin de la deuxième rak'at, et j'ai deux mauvaises habitudes par manque de concentration. Je prononce le teshahoud et la prière sur le prophète et l'invocation de la protection contre le Dajjal. Je lis une sourate en plus de la Fatiha dans les troisième et quatrième rak'at. Ma salat est-elle défaillante? Ai-je fait un ajout qui mérite des prosternations de distraction? Ai-je commis une innovation? Aussi concernant les rawatib, avant le fajr et le dhuhr, quand est-ce qu'on doit les faire? Quand devons-nous les accomplir? Avant ou après le adhan? Jazakumullah khayran, wa akramakumullah akrama al-akramin, ainsi qu'à tous les croyants et croyantes du monde. Tfadal cher.
C'était la question des rawatib, la question qui a rapport avec les rawatib, la fin seulement, pas la première question qui a rapport avec les doigts. Tfadal.
La sœur dit aussi concernant les rawatib avant le fajr et le dhuhr, quand devons-nous les accomplir? Avant ou après le adhan?
Pour la première question qui elle-même, deux choses. Donc petit a, donc premier a. Elle parle de quand une personne, par exemple, fait une salade de 4 unités. À la deuxième unité, elle doit s'asseoir et dire Tahiyatullah, Zakiyatullah, Tayyibatullah. Bon, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs versions. Je cite une version Tahiyatullah, Zakiyatullah, Tayyibatullah, Salamu alayka ayyuha an-nabi, ou bien Salamu al-nabi, wa rahmatullahi wa barakatuhu, Salamu alayna. وعلى عباد الله الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نورمالمون اون ساريت لا مي شيخ الألباني رحمه الله a dit si on termine c'est permis il a dit c'est même conseillé si on termine on dit اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نعم et il ajoute اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر et il se lève. D'après Cheikh Al-Albani, ça c'est permis, bi-idhnillahi ta'ala. Reste la deuxième. La deuxième chose, c'est pendant la troisième et quatrième unité, normalement on lit seulement le Fatiha. Mais si quelqu'un veut lire une autre chose après le Fatiha, c'est permis. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, dans Sahih Muslim, il est dit que quand il priait le dhuhr, priait le dhuhr, il faisait de sorte que dans les deux premières rak'at, c'était à peu près 30 versets. Et dans les deux dernières du dhuhr, c'est la moitié. Il a dit ensuite le asr. Les deux premières, il a dit, c'est comme la fin du dhuhr. Donc c'est yani la moitié de la fin du dhuhr. Et les deux dernières, c'est leur moitié. Donc dans ce hadith, il est dit que dans salat al-dhuhr et salat al-asr, il est permis de lire dans les deux dernières rak'at quelque chose de plus que le Fatiha. De plus que le Fatiha. Non. Reste pour les rawatib. En effet, quand c'est le moment, yani le moment est rentré de la salat. Par exemple, par rapport au matin, la salat subh, on va dire qu'il y a deux salats. Une qui s'appelle fajr et l'autre qui s'appelle subh. Comme ça, pour bien montrer que ce sont deux salats différentes. Car la salat subh s'appelle aussi fajr. Mais pour qu'on fasse la différence, on va dire fajr. C'est la sunna où on va dire qu'ul ya ayyuhal kafirun et qu'ul huwa Allahu ahad. Et subh où on va dire quelque chose de long. Tayyib. Donc maintenant, salat al-fajr. La sunna de fajr, je ne peux pas la faire. C'est une ratiba. Je ne peux pas la faire jusqu'à ce que le moment de salat subh soit rentré. C'est pour cela, je vous donne un exemple ici en Algérie. Ici en Algérie, quand il appelle à salat subh, la prière du matin, il appelle vers 6h20, 6h20 du matin. Or, nous on sait que, ici en Algérie, on sait que 6h20, ce n'est pas l'heure de la salat, qu'ils ont appelé à la prière au moins 12 minutes à l'avance. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on entend l'Aden, on ne prie pas la ratiba du Fajr. Parce que son heure, son moment n'est pas vraiment rentré. Donc moi, si j'entends l'Aden, je pars à la mosquée. Je rentre, qu'est-ce que je fais? Je ne fais pas Salat al-Fajr. Mais je fais les deux prières de la mosquée et j'attends. Je reste encore 10 minutes jusqu'à ce que je sois sûr que maintenant c'est le moment de Salat al-Subh. Là, je fais Salat al-Fajr. Et j'attends encore 5 minutes. Et ensuite, on se lève tous et on fait Salat al-Subh. Donc, pour Salat al-Dhuhr, la même chose. Les 4 rak'at de Ratiba, de Salat al-Dhuhr, on ne peut les faire que après que le moment de Salat al-Dhuhr soit rentré. Il faut voir au calendrier, c'est quand est-ce Salat al-Dhuhr. C'est-à-dire, c'est quand est-ce Zawal, exactement Zawal. Quand est-ce que le soleil quitte le zénith du ciel. Quand le soleil quitte le zénith, c'est le Zawal. Là, je peux commencer, je peux faire les 4 rak'at avant Dhuhr bi'idhnillah ta'ala. Sinon, si c'est avant l'entrée du moment de la salat, yani ça ne compte pas comme ratiba. Wallahu azza wa jal a'lam, tfadhal.
Ah, chère question d'une sœur.
Madame, je t'arrête pour ne pas oublier, pour que je ne perde pas le fil. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Fawzi, je t'avais demandé tout à l'heure de m'envoyer une question. Maintenant pour vérifier le son. Non, mais maintenant vous entendez ou là je sors et je reviens. Vous m'entendez? Taïeb, quand j'ai parlé de que Cheikh Al-Albani a dit dans Sifat Salat al-Nabi que c'était permis de dire dans le premier tashahhud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maintenant je me suis rappelé une chose. Je suis sûr qu'il a dit que c'était permis de dire cette chose, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mais maintenant j'ai des doutes. Est-ce qu'il a dit aussi que on peut terminer jusqu'à dire Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wa adhab al-qabr et les deux autres. Maintenant j'ai un doute. C'est pour cela que je voudrais retirer la parole de tout à l'heure et dire que Cheikh Al-Albani a dit que c'est conseillé de continuer le tashahhud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dans les deux premières unités. Mais je ne suis pas sûr s'il a dit, on peut dire les quatre. A'oudhou bi min adhab jahannam, adhab al-qabr. Voilà. Moi, j'allais dire à Abu Abdelbar, 86, je suis en train de parler, j'allais dire, et maintenant je vais contacter Abu Abdelbar. Peut-être qu'il a le livre devant lui, il va nous lire. Alhamdoulillah, peut-être c'est la télépathie, et il a quelque chose lui est arrivé dans son cœur. Allahu alam. Donc, Abdelaziz, regarde dans le cœur, Inch'Allah ta'ala, dans le cœur. Regarde dans le livre, Inch'Allah ta'ala, s'il a dit pour les quatre, pour les quatre. Et on attend ta réponse, Inch'Allah ta'ala. Tfadlal.
Ah, chère, question suivante, question d'une sœur qui dit: Cher, je suis au chômage, je ne touche pas une grosse somme d'argent et je voulais savoir si j'ai le droit à côté de ce que je perçois de faire de la vente. Je fais des pâtisseries chez moi et souvent des sœurs ou autres me demandent de leur vendre pour des événements, etc. Mais je voulais savoir si c'était haram ou pas, sachant que ce n'est pas déclaré.
J'avais dit une fois que si c'était pas, il y en a quelque chose, il y en a vraiment qui rentre dans la tijara. Si c'est juste que quelqu'un me dit, si c'est possible que je lui fasse un gâteau ou quelque chose comme ça, et que je demande l'argent dessus, ce n'est pas interdit. Je ne peux pas faire tout ça, il y en a bénévolement. Mais si maintenant la personne, comme si elle fait le commerce normal, elle est matin. Un soir, elle a des commandes et les gens qui attendent
Donc le cher a été déconnecté, Wallahu alam, où il est sorti, il va revenir. Donc pour les gens de la radio, les frères et sœurs de la radio, le cher revient, il a été déconnecté.
Salam alaykoum. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulillah. Donc je disais par rapport à qu'est-ce qu'on parlait de quoi? Par rapport au chou quel hadith? Non, par rapport à quand on fait un contrat, un pacte Non, même avec des gens qui ne sont pas musulmans, en islam, c'est demander de le respecter. Non, si maintenant vous avez dans le contrat que pour percevoir le RSA ou je ne sais quoi, il ne faut pas faire de commerce ou je ne sais quoi, donc ça veut dire que je ne dois pas le faire. Je ne dois pas le faire. Non. Reste une chose. Reste pour maintenant si je n'arrive pas quand même à manger ou à payer l'électricité ou à je ne sais quoi, dans ce cas, c'est permis, pas de faire le commerce, mais de vendre des choses, par exemple, comme si quelqu'un, par exemple, a quelque chose de personnel, je veux vendre mon manteau, je veux vendre mon parapluie, je veux vendre. Ça, c'est pas du commerce, c'est pas la tijara. Ce qui est interdit, c'est de faire le commerce. Mais de céder comme ça, si je vends quelque chose, par exemple, qui m'appartient, oui, ça n'a rien à voir avec la tijara, surtout si. Si comme j'ai dit, je n'arrive pas à manger, je n'arrive pas, j'ai pas les moyens. Mais ce qui est interdit, c'est de faire carrément yani le commerce. Ça, c'est interdit. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre le commerce et celui qui vend comme ça des choses personnelles. Wallahu ta'ala alam. Je reçois un whisper, quelque chose qui dit, cher, pour la télépathie, un frère vous a dit de dire que c'était une blague, car sinon certains vont croire que c'est vrai. Je dis. Quand j'ai employé le mot télépathie, je savais que certains, ça allait leur faire des ouest-ouest. Je le savais. Wallah al-Azim que quand j'ai employé, j'ai su. Mais laissez-moi vous apaiser pour vous dire que quand j'ai employé le mot, en même temps, je pensais au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que dans chaque nation, il y a des muhaddaths. Muhaddathun. Il a dit, s'il y a dans notre nation, c'est Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. C'est-à-dire que c'est possible dans une nation qu'il y ait un muhaddath. Muhaddath, c'est quoi? Quelqu'un qui pense à une chose, naam, et qui arrive comme lui, il a pensé. Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, une fois, était sur le minbar, et du minbar, il a quoi? Du minbar. Il était salat al-Jumu'ah, peut-être, mais c'est sûr qu'il était sur le minbar. Du minbar, il a parlé avec quelqu'un à des centaines de kilomètres. Naam, il lui a dit, Seri al-Jabal. Cette personne s'appelait Seria, un sahabi, et qui était dans une bataille. Il lui a dit, attention, la montagne, c'est-à-dire, mets ton dos contre la montagne pour que l'ennemi ne vienne pas de derrière. Ferme-lui cette brèche. Il a dit ça, Omar a dit ça à qui? À quelqu'un qui était loin de lui, à des centaines de kilomètres. Donc, la télépathie elle-même en islam, ça existe. Elle-même en islam. Ça existe, même si, bien sûr, ça ne veut pas dire que je fais partie de ces gens-là. Mais je veux dire qu'il ne faut pas s'étonner, naam, et dire que ça a une base dans la religion. Et Omar ibn Khattab, naam, a parlé avec quelqu'un, et le hadith est authentique, à des centaines de kilomètres loin de lui. Tfadlal. Même si ce n'était pas ce que je voulais dire quand j'ai parlé avec Abu Abdul Bar, bien sûr. J'ai dit que, subhanallah, ce que j'ai pensé. Yani, c'est-à-dire à quoi je pensais, car je pensais à lui en train de parler. J'étais en train de parler et je pensais à Abu Abdelbar pour lui dire d'aller regarder le livre de Cheikh Al-Albani. Et lui, il a dit, subhanallah al-Azim, je vais vérifier le livre de l'Albani. Tout seul, il a dit. J'ai dit, subhanallah al-Azim, c'est comme si on s'est parlé de nos cœurs, de nos cœurs. Fadlan.
Question d'un frère qui dit, je vis en Algérie, alhamdoulillah. Mon fils a maintenant 7 ans et nous ne sommes pas en mesure de lui apprendre la langue arabe. Il y a une école juste à côté de chez nous, quartier assez tranquille, alhamdoulillah, mais l'école est mixte. Nous est-il permis d'y laisser notre enfant en sachant que là-bas il avance dans la langue arabe? Allahumma barik wa barakallahu fikum. Tfadal cher.
Une seconde par rapport à ce qu'on a demandé à Abu Abdelbar de nous donner une réponse sur le livre de Cheikh Al-Albani. Il m'a envoyé une photo. Il m'a envoyé une photo. Donc je suis en train de lire. Je suis en train de lire ce qu'a dit Cheikh Al-Albani. Rahmallah, une seconde. Abu Abdelbar, est-ce que tu m'entends? Alhamdoulilah. Toi, tu as vu par rapport à Wujub al-Isti'adha min arba' qabla al-du'a. C'est pas de cela que je parlais. Si c'est possible de voir, naam, Tashahhud al-awwal, c'est là-bas qu'il dit. Il dit, ah, tu as vu. Naam. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que là-bas, il a dit que c'était permis de faire Salat al-Ibrahimiyya là-bas. Fadlal, si tu peux prendre le micro. Taïeb, donc il dit que, Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit que, il dit ici que c'était permis dans le premier, voilà, dans le premier teshahoud de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, comme salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim jusqu'à la fin, et il a dit de choisir une doua, de choisir des doua. Yani pour terminer en choisissant des doua, il a dit que ça aussi ça se fait. Donc maintenant on reste dans faire des doua. Il a dit choisir une doua. Est-ce qu'on choisit l'homme n'y a aucun adab jahannam ou adab al-qabr? Mumkin, mumkin. Il n'y a rien qui interdit cela parce qu'il a dit que c'est possible de choisir une doua. Et cette doua, les savants disent quand le prophète a dit c'est possible de choisir une doua, c'est-à-dire de préférence la doua du prophète a.s. Pas des doua de notre tête, genre donnez-moi, ya Allah, donnez-moi une maison, là, une voiture ou là. Il a dit de préférence, on choisit une doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, parmi les doua choisis, c'est l'homme n'y a comme l'adab jahannam et l'akhirah. Il y a un hadith dans le, il y a un tri dans le hadith pour l'isti'adat. Fadlab, j'ai pas compris. Fadlab. Naam, j'ai compris. Je vois maintenant. Je viens de voir. Wa idha fariqa ahadukum min tashahhud al-akhir, falyasta'id billah min arba'. Dans ce hadith, ici, Cheikh Al-Albani rahmahoullah vient d'ajouter une sorte de condition. Il a dit, et si quelqu'un de vous termine le teshahud, ensuite il a mis entre parenthèses le dernier. Il a dit, donc, qu'ils disent les quatre. Qu'ils disent, a'udhu billah min adab jahannam, adab al-qabr, jusqu'à la fin. Donc, je comprends par là que, quand il a ajouté ce qu'il y a entre parenthèses, c'est écrit le dernier teshahud. Donc, il vaut mieux ne pas dire ces quatre dans le premier teshahud. C'est comme ça qu'on comprend, yani, bimafhum al-mukhalafa. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, dans le premier teshahud, si c'est possible de faire d'autres doigts. Et dans le dernier, on fait celui-là. A'udhu billahi min adab jahannam wal-qabr, fitnat al-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal. Jazakallahu khayran, ya Aba Abdil Barr. Tfadhal.